Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RDL sur le 103.5 et vous êtes dans le mini-mag, un mini-mag aujourd'hui qui va être entièrement consacré à un groupe qui sera sur scène ce vendredi 7 septembre dans le cadre du festival du Jazz Off, 20e édition cette année, c'est l'anniversaire. Et ce groupe, vous ne rêvez pas, c'est Eneri Blaka, oui ils sont de retour. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir un des fondateurs de cette formation, il en est aussi le bassiste, il s'agit de Jeff. Salut Jeff.
Salut.
Alors, on va faire un petit peu d'historique pour ceux qui ne connaissent pas Eneri Blaka, si quelqu'un ne connaît pas Eneri Blaka, mais on va quand même revenir un peu à l'origine du groupe. Donc, vous étiez 5 et vous êtes rencontrés à l'atelier créatif Funk Shop du Centre d'enseignement et de développement de l'improvisation musicale à Strasbourg, autrement dit le CEDIM. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît?
De cette période?
Ouais, et puis du CEDIM, tout ça.
Ah, bah, le CEDIM, c'était un petit peu... le rencard un peu à Strasbourg à l'époque, où effectivement on a rencontré là-bas plein de gens qui après sont les gens que tu peux croiser sur les scènes à droite à gauche, tu vois.
Ouais.
Oui, on est arrivé là-bas, Bruno et moi, le guitariste et moi, qui lui est mon pote d'enfance. Et parce que voilà, si t'as envie d'aller un petit peu plus loin dans la musique à Colmar, c'était vite limité.
Bien sûr.
Voilà, et donc là-bas, on a rencontré effectivement le saxophoniste Romux, le batteur Martial, le premier batteur d'Eneri. Je le connaissais déjà, on jouait dans un groupe de power metal ensemble avant. Du coup, il était venu avec nous et voilà. Et puis c'est là-bas aussi qu'on a préparé le conservatoire et le concours d'entrée et puis tout ce qui en a suivi. Tu vois, où on a rencontré après les autres, quoi.
D'accord. Et donc tous les 5, vous avez commencé à jouer, faire des standards et puis après.
Pas, on jouait des standards.
Ouais, complètement. Et après, vous êtes reparti à 4. Enfin, il y en a un qui est parti, c'est Nicolas qui a arrêté.
Ouais.
Voilà. Et donc là, pareil, standard, et puis vous tournez un petit peu partout.
Ouais, assez vite, on a commencé à faire des petites compos. Mais ouais. Et puis après, tu sais comment c'est, tu vois, t'as ton répertoire de standard, et puis petit à petit, tu rajoutes 1, 2, 3 compos, et tu vires des standards, quoi.
Et donc déjà, sous Patchwork, vous aviez des compos?
Ah, on commençait déjà, ouais.
D'accord, ok.
Voilà, après les standards, c'est génial parce que ça nous a appris à jouer ensemble, tu vois, à comprendre un petit peu les codes de cette musique-là. Donc c'était vachement bien qu'on ait fait ça direct avant, tu vois.
C'était pas forcément ton univers musical alors du coup, la funk?
Alors si
malgré tout.
Si et même avec Bruno quand on avait 15 ans et tout, on faisait déjà notre premier groupe, c'était déjà un groupe de funk, tu
D'accord.
vois. Fan de tout ça, tu vois, mais après tu sais, en même temps, un occidental, c'est une éponge, tu vois, on est bercé dans toutes les musiques urbaines, tu vois, ça va du rock and roll au hip hop, en passant par le funk, tu vois.
Voilà, du blues au métal.
Bien sûr, bien sûr.
Donc ça, c'était au siècle dernier, quasiment, quand vous
c'était
êtes venu.
C'était au siècle dernier,
ça, ça nous rajeunit pas. Et en 2002, donc, il y a Patrick qui va venir vous rejoindre au clavier. Et puis, il y a aussi un DJ, du coup.
Ouais, voilà. DJ You.
DJ You.
Exactement.
Olivier Madène.
Alors, Olive.
Ah, oui,
ah
Olive,
bah là, on est même avant.
Ah ouais,
là,
ouais, donc ça, avant. C'est en 2002, ça.
Ah ouais, ouais.
Eh ouais. Ça, c'est en 2002, ça sera après DJ You.
Eh, t'as bien bossé, hein.
Ah ben, non, en fait, j'ai regardé sur Wikipédia. Il y a pas mal de choses. Ouais, on parlera aussi de votre site qui est un petit peu laissé à l'abandon.
Et ouais, mais ça fait partie des ingrédients d'un retour réussi, tu vois.
C'est ça.
On se dit c'est à l'abandon et d'un coup, paf. Tu vois.
Parce que si on veut acheter le CD, pour l'instant, c'est un peu compliqué.
Mais si. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écoutent des CD?
C'est vrai. Je sais pas. Ouais. Oh, bah, si, quand même, un peu.
Non, ouais. Après, au cas où, on est disponible aussi sur toutes les plateformes de téléchargement.
Voilà, toujours. Voilà. Et même d'écoute, etc. Effectivement. Alors, donc, après une tournée, après une jam, c'était même pas un concert, c'était une jam au Molodeuil. C'est là que vous rencontrez Mathieu.
Ouais, Mathieu le chanteur. Tu sais que la première fois qu'il a joué avec nous, quand même, il a fait du kazoo.
Ah ouais.
Ouais. Il est venu faire du kazoo, quoi.
Ah oui, c'est original.
Après, on le connaissait déjà parce que voilà, la sphère strasbourgeoise
évidemment.
Reste quand même aussi petite finalement, tu vois. Mais ouais, la première fois qu'il est venu, c'était pour faire du kazoo. C'était au Molo.
Et donc l'arrivée du chanteur, forcément, on commence à composer d'autres choses et puis on intègre la voix, évidemment.
Ouais, ça ouais. donne une autre direction à la musique, c'est sûr.
Carrément. Et donc là, il y a tout. Ouais, là, c'est le groupe principal qui se forme en 2003. Et là, il y a une trompette qui arrive.
Ouais.
À ce moment-là aussi.
Ouais.
Avec Guy Floquet.
Exactement.
Voilà, qui arrêtera un peu plus tard. Bon, voilà, un petit peu plus tard. Donc là, les concerts s'enchaînent et
ouais, grave.
Forcément, à un moment, vous vous dites, il faut peut-être faire un CD. Enfin, il faut peut-être faire un album.
Ouais.
Ouais, c'est quand même bien.
Ouais, là.
Depuis le temps que vous jouiez les morceaux.
La question s'est posée clairement, quoi. Ouais, dire, ouais, ok, ouais. Bon, on a tant et tant de compos, qu'est-ce qu'on fait voilà, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était être sur scène.
C'est ça. Il n'y avait pas la démarche commerciale actuelle avec d'abord on sort le CD et puis après on va sur scène.
Carrément pas. On n'était pas du tout là-dedans. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste aller faire les oufs sur scène, tu vois.
À 8.
Ouais. Et partir en tournée et puis délirer, quoi. mais ouais, la question, elle s'est posée. Et puis finalement, ça c'est. On s'est lancé dans la pré-prod, déjà. Mm-hmm. Et puis après, on a fait le truc sérieusement.
Ouais. Donc en 2006, vous rentrez donc chez à Downtown.
Ouais.
C'était qui l'ingé son ? Toujours le même ? Parce que j'en connais un.
Ouais, bah, c'était Didier.
Ah non, moi je connais Mathieu.
D'accord.
Ouais, voilà.
Alors à l'époque, non, il y avait Nico aussi, Nico de Vernois. Ouais. Et puis Pat, notre clavier, du coup, qui aussi qui fait beaucoup de studios. Et donc, qui à l'époque bossait aussi un petit peu avec Didier.
D'accord.
Donc du coup, ça nous a permis aussi de pouvoir un petit peu, des fois, rester plus longtemps dans le stud. C'était encore de l'édit à faire ou des trucs comme ça, tu vois.
Ouais. Des heureux, des machins.
Ouais, mais après, sinon, globalement, c'était Didier qui était aux machines.
Ok.
Ouais.
D'accord. Et comment ça s'est passé? Alors justement, comme vous veniez de la scène, tous les morceaux étaient rodés. Donc vous avez enregistré un peu en live, en fait,
alors,
dans les studios.
Ouais. Toute la section rythmique, c'est-à-dire basse, batterie, guitare, clavier, on a enregistré en live.
D'accord.
Et ensuite, le reste s'est posé par-dessus. Mais ouais. Et pour Pornocratie aussi, d'ailleurs. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé.
D'accord. Je pensais que vous alliez quand même composé plus dans l'esprit d'aller en studio, justement, plus que pour le premier album, puisque le premier album sortait de scène.
Ouais.
Et là, il y a une démarche un petit peu différente.
Et c'est ce qui donne le côté un petit peu plus fou aussi du premier album.
Ouais.
Voilà, c'était des morceaux qu'on avait joués des centaines de fois sur scène. Après, on avait moins d'expérience aussi du studio.
Bien sûr.
Donc, quelque part, ça a duré aussi un petit peu plus longtemps jusqu'à ce qu'on soit tous satisfaits du résultat. Parce qu'à 8, pour que tout le monde soit satisfait du résultat,
c'est pas simple.
Ah, les boîtes mail, elles explosent. Hein, tu vois.
J'imagine. Alors, dans ce premier album, là, donc, le Big Bang, hein, il ne va pas y avoir de meilleurs titres pour un premier album. Il y a eu pas mal de featuring, et notamment avec le chanteur des Fishbone, Angelo. Comment s'est passée cette rencontre?
Déjà très bien.
Ouais.
Ça s'est passé qu'on a fait la première partie de Fishbone avec Wolfenkind.
Ouais, voilà dont on parlait tout à l'heure en off.
Voilà dont on parlait tout à l'heure. Ouais, et puis que c'est des mecs super cool. Toi, alors déjà le fait qu'on se retrouve à faire leur première partie, ça s'est fait simplement. Moi, j'étais un fan de Fishbone ultime. Moi, quand j'étais ado, j'avais des posters d'Angelo dans ma chambre, tu vois.
D'accord.
Et on était en résidence au Nouma et fin de journée, le mec qui s'occupait de ça à l'époque au Nouma, il me fait ouais, mais c'est cool. Ouais, je me dis ça pourrait être sympa. Il y a Fishbone qui vient, vous pourriez faire la première partie. Voilà, je t'avoue que j'ai mouillé ma culotte.
Je comprends.
Tu vois. Et voilà, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, je sais même plus comment j'ai eu l'adresse d'Angelo, l'adresse mail. Par le clavier, Dre Gibson à l'époque.
D'accord.
Je crois qu'il est plus dans Fishbone. Voilà.
C'est même pas Laurent qui te l'avait filé.
Et c'est même pas Laurent qui me l'avait filé. Et je lui ai envoyé un mail à Angelo, vraiment au culot, tu vois. On était en train de faire l'album, donc j'avais des pré-prod un peu pourris, donc je lui ai envoyé ça plus le texte, et en lui disant voilà, c'était nous. Alors on avait squatté aussi dans les loges de la laiterie, enfin on avait fait 2-3 soirées de teuf un peu ensemble, tu vois. Et il me répond ouais, ça ressemble à un projet auquel je me vois participer.
D'accord, mais donc déjà, ça part bien.
Ah, déjà, la réponse classe, tu vois. C'est pas genre le mec qui te répond genre, ouais, combien, tu vois.
Ouais.
Et donc voilà, et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, on a un peu échangé par mail. Après, je suis allé le voir au Ninkasi KO à Lyon, mm-hmm. avec Dr. Mad Vibe, où il tournait ouais. en première partie de Weapon of Choice, qui est un groupe de funk monstrueux, mm-hmm. Weapon of Choice. Et voilà, et c'est là qu'il m'a filé son numéro de téléphone, et du coup, là, c'était beaucoup plus simple mm-hmm. de booker les trucs, tu vois, mais c'était assez marrant parce que c'était un truc qui était resté entre nous, tu vois, on se téléphonait, on disait ouais, ok, ça, ça. Et puis, on avait calé qu'on allait le récupérer pendant la tournée Fishbone, et puis à un moment, il me dit ouais, mais tu sais, il y a personne qui est au courant. Arrête. Bah ouais, ouais. Attends, je te donne des numéros de téléphone. Faut que tu les appelles pour leur dire quand même, tu vois.
Bah ouais.
Heureusement, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur des gens cool, tu vois, qui m'ont dit ah bah ouais, si lui il est chaud, pas de problème, tu vois. Et Laurent, pareil, tu vois, mm-hmm. il m'a dit exactement. Après, lui, il nous connaissait, mais voilà. Et donc, du coup, ce qui était vraiment très cool, c'est que il est venu avec nous pour faire mm-hmm. ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça genre je t'envoie les pistes, le mec il est à Los Angeles et on se fait ça par 8 transferts, tu vois. Mm-hmm. Donc il y a eu vraiment un échange artistique déjà, de se retrouver ensemble dans le studio, de dire ok, on fait ça, ça, ça. Et puis en même temps, humainement, la rencontre, elle était géniale, tu vois. Parce qu'il était là en vrai.
Ouais, c'est ça.
On faisait pas ça, à distance, quoi. C'est donc souvent le cas, hein, sur des feats.
Bah, souvent, voilà, ouais. Ouais. Ah ouais, voilà. C'est plus simple.
Ça, c'est tout, une chance vraiment qu'on a eue. Le mec, il a passé 3 jours avec nous. Il est même monté sur scène avec nous au FIMU et tout.
D'accord.
C'était vraiment cool, quoi.
Donc, il est venu à Strasbourg pour.
Il est venu à Strasbourg. Alors, non. Parce que nous, ce week-end-là, on jouait au FIMU à Belfort. Et donc, du coup, on avait installé le studio dans la cave de la grand-mère de notre saxophoniste à Montbéliard. Didier, il est venu avec son studio, avec sa console, son Pro Tools, son machin, tu vois. Mm-hmm. Et on avait posé ça. Dans la cave de la grand-mère de Romux, quoi.
Ok.
Ouais.
Ah, donc une anecdote aussi, c'est que il fallait passer aussi par Laurent Lacroute. Alors on vous explique vite fait qui c'est Laurent Lacroute. C'est le leader, enfin si on peut appeler ça un leader, du groupe maintenant Inspecteur Clouseau, qui était à l'époque le fondateur avec Mathieu Jourdain des Wolfenkind. Donc ils sont passés de ce qu'on connaît maintenant. Inspecteur Clouseau, avant c'était un groupe de funk, ils étaient aussi très nombreux sur scène. Et ils avaient monté le label Terre à Terre, qui était aussi le label et le tourneur de Fishbone en Europe. Donc c'est comme ça que voilà, vous êtes connus avec Laurent Lacroute.
Avec Laurent, ouais.
Voilà. Au départ, le Terre à Terre c'était à Bordeaux, puis après maintenant ils sont à Mont-de-Marsan. Et je ne sais pas si Terre à Terre fonctionne encore, il faudrait que je lui demande à Laurent, je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais en tout cas à l'époque ils avaient un catalogue.
Ah ouais, c'était la folie.
Ils faisaient tourner des groupes incroyables, Sublime, Infectious mm-hmm. Grooves, enfin c'était incroyable, quoi.
Ouais, et puis ils avaient des demandes sans arrêt, ils ne pouvaient pas tout faire, quoi.
Ah ouais, ouais. Ouais, c'était impressionnant ce qu'ils avaient monté.
Alors voilà, pour ce qui était de Terre à Terre, je te propose qu'on écoute un petit morceau quand même du premier album, et notamment le featuring avec Angelo, et donc ça s'appelle White Coats, les chapeaux blancs. On se retrouve juste après.
Les blouses blanches.
Les blouses blanches. À Coats. Ah ouais, je crois que t'es un chapeau, n'importe quoi. Bah non, c'est hat. Les blouses blanches. Tu nous expliqueras pourquoi. Allez, c'est parti. We gotta fight the powers that be.
People think we stay united against the thing of thought. of the lonely ships, you met his last speed. It's up to you, don't ask yourself what your government can do against you. That's what you can do against a man in blue.
Voilà, juste un extrait de White Coats. Alors pourquoi les blouses blanches, dis-moi, Jeff?
Parce que les souris de laboratoire.
D'accord.
Ah, c'était un peu ça le concept et l'idée du morceau.
Ok, donc ça c'est donc l'album Big Bang 2006. Avant le 2011, avant le deuxième album Welcome to Pornocracy, il y a le line-up qui a changé, ouais. Notamment avec deux changements notables. Le trompettiste Guy, qui est remplacé par Cédric, alias Tribuman, qu'on connaît bien. Et puis, il y a aussi le batteur, Martial, qui s'en va et laissant la place à Bastian.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Et là, pareil, parce que carrière.
Que la vie, parce que d'autres envies, parce que.
Carrière un peu différente.
Ouais.
Plein de raisons pour que.
Voilà,
pour
c'est
que ça.
Ça
change, quoi.
C'est ça, tu vois. Peut-être fatigué aussi, tu vois, de... Mm-hmm.
En 2008, il y a même un DVD qui sort, qu'on peut toujours se procurer, qu'on
ouais,
pourra se procurer
sûr.
Vendredi soir, puisqu'il y aura du merch, j'imagine,
ouais.
Parce qu'il y a des gens qui attendent quand même votre venue et puis qui n'ont peut-être pas les disques ni le DVD. Et il y a aussi des choses un peu rigolotes, enfin rigolotes, je m'entends. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, Shake Me Up. La société Philips en 2008 qui la prend pour la promotion de ses produits.
Ouais.
C'est quoi ce truc?
Ouais.
Ça vous est tombé dessus comme
écoute,
ça?
Écoute, ouais.
Donc ils ont acheté le morceau, enfin ils ont payé des droits.
Ouais, c'est
et
ça,
puis,
ouais.
Voilà. Et c'était quoi, des produits électroménagers, c'est quoi? Tu te rappelles?
Ouais, je sais plus. Ouais, je crois.
Un truc comme ça, quoi.
Ouais.
Et puis il y a aussi le Eneri Blackout Part 1 and 2 qui fera partie de la bande-son d'un document allemand traitant des dérèglements climatiques dans le Brandebourg.
Ouais.
Ça aussi, c'est pareil, c'est pas, c'est quand même pas banal.
Ouais.
Et qui c'est qui vous a contacté là? C'est le producteur de l'émission.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et déjà, on parlait de dérèglement climatique.
Et ouais. Et oui, après, mm-hmm. C'est un peu de ça que ça parle, quoi.
D'accord.
Mm-hmm. Du contraste entre la société occidentale et certaines tribus encore qui ont un tout autre rapport, tu vois.
Mm-hmm.
À leur
au monde,
monde.
Ouais.
Même pas au monde, c'est à ouais. Leur monde, tu vois, parce que clairement les deux ne vivent pas dans le même, quoi. Toi.
Une question du coup, pourquoi le nom Eneri Blackout? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Alors Eneri Blackout, c'est la vallée du guerrier. Alors c'est un lieu géographiquement, c'est un lieu dans le désert de Tamanrasset,
d'accord,
donc, au sud de l'Algérie, nord du Mali, du Niger, pardon. Et
c'est le Ténéré en fait, non?
Ouais, alors, et à la base, Eneri Blackout, c'était un tableau d'un pote à nous, Eric Bleicher, qui est plasticien, et qui avait fait ce tableau Eneri Blackout, sur lequel, à un endroit, il y avait le bonhomme qui représente Eneri, qui en fait est une reproduction de peinture qu'ils ont retrouvée dans certaines grottes de cette vallée-là.
D'accord.
Et à la base, Eneri Blackout, c'était le nom d'un morceau.
Mmh.
On avait, et puis après, c'est comment c'est, tu sais, quand tu cherches un nom pour un groupe,
c'est pas évident.
Brainstorming, tu vois.
C'est ça.
Et voilà, et puis Eneri Blackout, ça s'est avéré assez logique, finalement, tu vois.
Ouais, donc ça part d'un tableau.
Mais à la base, ouais, ça part, l'arrivée de ce nom et de ce lieu et de tout ça dans nos vies, c'est par ce tableau.
C'est par ce tableau.
Le vecteur, ça a été ce tableau, ouais, effectivement.
Bah voilà, maintenant on en sait un peu plus. Donc 2011, c'est Welcome to Pornocracy. Donc enregistré où celui-là ? C'était pas à Downtown par contre.
Ah si, si. Si, pareil. La rythmique, on l'a enregistré chez Downtown.
Ouais.
Et après, le reste, on l'a enregistré à Dub & Sound Studio, donc chez Patrick, notre clavier.
Uh-huh.
Voilà.
D'accord. Et donc après, ça s'est un peu, pas épuisé, mais ça s'est un peu essoufflé. Chacun, vous avez eu des directions un peu différentes. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On a quand même tourné pas mal, Pornocracy.
Ouais, ouais. Oui.
Il est sorti en 2011. Notre dernier concert, on l'a fait en 2014, mm-hmm. au Grillen d'ailleurs, pour Jazz Off.
Ah ouais, donc c'est un retour, vraiment retour aux sources.
Une boucle, quoi.
Ouais.
Voilà,
ouais.
Et puis après, oui, il y a eu des choses qui ont la vie, certaines choses de la vie ont fait que voilà. Moi, par exemple, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour accompagner mon papa à la fin. Et puis c'est une fin qui a quand même duré presque un an, tu vois. Donc voilà. Et après, ça fait que il y a eu une espèce de d'inertie comme ça qui s'est installée. Je pense qu'on était peut-être aussi fatigués d'avoir énormément tourné, d'avoir peut-être chacun avait aussi peut-être envie de faire un peu autre chose. Et voilà. Et c'est pour ça que pour nous, Ineri a toujours été en stand-by plus, tu vois, plus que vraiment fini.
Ouais, c'est ça.
Voilà, parce que ce qui a juste manqué pendant ces années, c'était vraiment l'énergie de s'y remettre et peut-être les occasions. Et on se le disait souvent, hein, on se disait, ce qu'il faudrait, c'est des dates.
Bien
des
sûr.
Dates pour qu'on s'y remette, pour que ça relance la dynamique, pour que... voilà. Parce que malgré tout, on reste avant tout quand même un groupe de scène, tu vois, on a envie d'être sur scène, c'est là où on s'éclate le plus.
Ouais, bah oui.
Tu vois pendant et puis avant et après aussi hein, évidemment mais
oui.
Mais voilà donc du coup je pense que c'est ça qu'il faut pour que la dynamique se relance et pas du tout de se retrouver en studio de se dire on fait un album
ah il faut
pas du tout tu vois c'est sur scène que ça doit se passer
c'est comme ça que ça a commencé
et
la famille s'est formée comme ça quoi. Voilà c'est une famille et donc forcément une famille ça meurt pas quoi
ouais bien sûr ah, le lien il est vachement plus profond que la musique entre nous.
Et donc le Jazz Off, c'est l'occasion.
Vous
en parliez avec Alévi, avec Seb et puis avec Pierre-Marie. Donc voilà, 20e année, 20e anniversaire. C'est la reformation. Enfin, reformation, non. C'est la réapparition d'Ineri Blackard. C'est pas une reformation puisque.
On appelle ça comme on veut.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est le retour, quoi.
Le retour.
Ouais.
Après ce retour, on peut tout imaginer.
Ah, on peut tout imaginer. Tu vois, là, ils veulent retourner sur la Lune. Je pense qu'on va aller avec. on est sur liste d'attente pour les billets.
Je pense qu'après, après le concert de vendredi, sans doute, vous allez avoir des propositions. Vous en avez déjà, je pense.
Ouais, sûrement. Il y a deux, trois petites choses qui sont en négociation. Comme je te disais avant, on a du matériel aussi musical qu'on n'a jamais sorti. Il y a des morceaux qui sont prêts, qui sont composés, qui sont finis. Donc voilà, l'essentiel, je pense, c'est que l'ambiance soit bonne.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, on est aussi tous dans des étapes de notre vie et dans des âges où on n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a plus forcément envie de se mettre la pression de la même manière qu'on se la mettait à une époque. Tu vois ?
Ouais. Ça aussi, c'est important.
Et voilà. Et pour l'instant, ça se passe vachement bien. On a tous le sourire. On est tous hyper contents de refaire ça.
Et le public a hâte parce que moi, tous les gens avec qui j'en discute, ils disent « c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ça va arriver.
Ouais, c'est cool.
Il y a un super engouement autour de ça.
Ouais,
effectivement.
Mais c'est cool. Ça va être une super soirée vendredi. Vraiment, nous, on a hâte.
Je pense qu'il y aura du monde.
Ouais, je pense aussi. Ouais.
Et d'ailleurs, ça sera diffusé en direct sur RDL, si on a l'accord. Si on a l'accord, mais bon.
L'accord de qui ? De nous ?
Bah oui.
Bah, bien sûr.
Forcément. Bah, merci.
Bien sûr, t'en parleras avec mon avocat. Non, mais évidemment.
Génial. Bon, mais en tout cas, on espère que les gens seront plus dans la salle que derrière leur poste de radio, parce que il faut le voir. C'est pas seulement entendre, il faut le voir aussi.
Ah ouais, c'est sûr, il se passe des trucs sur scène.
Et il va s'en passer. On va se quitter avec un morceau du deuxième album, un pas trop long. On va prendre Ineri Ritual.
Ineri Ritual. On est les rois des jeux de mots.
Ouais, bah oui.
Non, après Pornocracy, c'était plus un album un peu concept. où effectivement, comme Black A Block, comme le jeu de mots avec les Black Blocs, Ineri Ritual, qui est un morceau, il n'y a pas de texte.
Ouais. Alors les deux albums, c'est vrai, ils sont un petit peu différents, mais ça doit être dans la conception, je pense, ou c'est pas, c'est une évolution naturelle sur scène, ou non, c'était une démarche différente.
Ouais, bah sûrement que la démarche de composition était différente. Mmh.
Parce qu'il y a quand même dans les deux, il y a vraiment la soif du détail, quoi. Il y a plein de détails dans un, ouais. On peut pas écouter une seule fois, ça sert à rien. Il faut l'écouter 10 fois de suite.
Oui, c'est sûr qu'il se passe plein de trucs
pour vraiment tout choper, quoi.
Mais c'est vrai que Pornocratie, on a dès le départ, on voulait faire un album un peu plus concept.
Mais ça reste tout le temps aussi dynamique.
Oui. Voilà. Après, l'énergie en elle-même, ça reste la base du truc. Mais après, au niveau des sujets traités, au niveau du fond, Pornocratie était peut-être un petit peu plus sérieux, tu vois.
Ouais, plus mentalisé.
Ouais, plus réfléchi. Plus profond en termes de fond, quoi.
Vous avez peut-être plus de temps aussi pour y réfléchir.
Ouais, et puis peut-être un petit peu plus de bouteilles aussi.
Oui, ça aussi, forcément.
Mais après, il y a quand même, j'espère en tout cas, une certaine spontanéité qui se ressent comme ça, tu vois.
Oui, mais quand même.
Mais c'est sûr que dans le processus de composition, c'était un petit peu différent parce qu'on était tous un petit peu plus éclatés aussi géographiquement. Uh-huh. Donc on a été aussi un petit peu obligés de faire ça plus à distance par moment, plus que de composer ça à la manière rock'n'roll. Big Bang, on l'a composé comme un album de rock, c'est-à-dire le soir dans le local, tu vois.
On part d'une idée et puis
c'est ça, et on brode le truc et puis on essaye ça. Alors que Pornocratie, il y a eu des moments où c'était plus à distance, on s'envoie des fichiers, des riffs, chacun bosse chez lui. Donc après c'est une évolution qui est liée à nos chemins géographiques déjà, tu vois.
Aussi. Et au niveau de l'écriture, je parle des paroles, c'était un peu tout le monde ou c'était plutôt quelqu'un qui était.
C'était essentiellement Mathieu, Romux et moi. Mathieu et Romux très impliqués sur le fond, sur le sens.
Et après, est-ce que c'est de la musique qui est écrite aussi sur Partoche, etc., ou c'était non, pas trop. Non, parce que c'est quand même pointu.
On pourrait,
ben, ouais,
l'écrire, c'est... tu vois, mais non, nous on fonctionne pas comme ça, tu vois.
D'accord.
On a tout en tête, quoi.
Ouais, mais tant mieux, mais pour de la musique un peu... parce que je vois les Raoul Petit, par exemple, comme ils ont des intervenants qui arrivent tout le temps, les mecs, même le batteur, il joue sur Partoche, quoi.
Ouais, mais après, voilà. Raoul Petit, c'est bien construit, hein.
Ah ben ouais.
C'est hyper construit.
Ouais, il y a des sacrés plans.
Ouais. Non. Après, oui, effectivement, comme je te disais avant, tu vois, à un moment, on a eu un remplaçant trompettiste qui était hyper carré et tout, qui avait écrit toutes les parties. Ce qui nous a vachement aidé pour le trompettiste qui sera le remplaçant là vendredi. Du coup, ça lui a évité de devoir tout repiquer, tu vois. Mais non, nous on fonctionne pas trop comme ça. On a tout en tête. Et au pire, si tu te souviens plus, t'écoutes.
Oui.
Tu vois.
Oui, bien sûr. Ouais. Une petite idée de la setlist sans spoiler. Ça va être des extraits de deux albums ou peut-être des nouveautés, enfin des choses qui n'ont pas été enregistrées en tout cas.
Alors non, là on en a parlé. On a hésité, mais là on va jouer que des morceaux qui sont sur les deux albums. White Coats,
notamment.
On va par contre, René Ritual, on va pas le jouer.
Ok.
mais non. Par contre, ouais, c'est que des morceaux des deux albums. Voilà, on joue 1h15, 1h20.
Ouais.
Donc
c'est bien.
Les morceaux sont assez longs. Il y a une petite dizaine de morceaux, pas plus.
Ouais.
C'est vrai qu'à l'époque, on faisait plutôt des concerts de 2h, 2h30, tu vois.
Ah, mais c'est déjà pas mal parce qu'en général, dans un festival comme ça, c'est plutôt 45 minutes, 1h. Là, 1h20, je suis déjà content, là.
Ouais, bah merci Jazoff. Hein.
Oui.
Voilà, après Seb, il me disait, voilà, vous revenez, on va pas vous faire jouer une demi-heure, toi.
C'est ça. Ça serait con.
Si déjà, qu'on puisse un petit peu quand même jouer, avoir le temps d'être chaud au moins, toi.
Ouais. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup,
avec
Jeff,
plaisir,
d'être venu parler de ce retour pour le vendredi 16 septembre. On vous attend tous. Le concert est évidemment gratuit. Ça fait 20 ans que ça dure, le Jazz Off, et tous les concerts sont gratuits. Ça se passe au Grillen. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas venir. Et puis, puis vous pourrez discuter avec les gens d'Enery. Alors, on pourra parler de tout.
Ah, bah, hein, de tout.
Voilà.
Bien sûr.
Et puis surtout, vous pourrez acheter aussi les albums. Il y a des t-shirts aussi avant.
Il y a des t-shirts.
Il y a de tout.
Ouais.
Génial.
Il y a du merch.
C'est cool. Allez, on va se quitter avec un morceau que vous n'entendrez pas vendredi. Donc c'est Enery Ritual. Et puis encore merci, Jeff.
Avec plaisir.
À vendredi.
Ciao.
rigolo. Mais j'ai pas compris le truc.